Salut tout le monde, vous êtes sur RTF 95 MHz ou bien sur le DAB ou bien sur internet et vous écoutez les barricades mystérieuses. Alors aujourd'hui, de la musique classique et des livres, comme d'habitude. Alors les livres, le dernier livre de Karine Thuil, bonne romancière, qui s'appelle « La guerre par d'autres moyens ». Et puis un petit livre par la taille, mais un très très bon livre, un excellent livre même, c'est de Olivier Rollin, « Cette ville ». 7, le chiffre 7, et voilà, et 7 villes. Et puis alors, bah, de la musique un peu, non pas contemporaine, mais assez récente, nous allons l'entendre tout de suite. Et puis de la musique plus ancienne, du Corelli, du Bach, et aussi un peu de romantisme avec Schubert. Alors, pour commencer, je vous propose d'écouter un mouvement du concerto pour flûte de Jacques Ibert. Alors Jacques Ibert, 1890-1962, il a écrit beaucoup de choses, mais il a écrit un concerto pour flûte qui est une sorte de... qui est au flûtiste ce que le Mont Ventoux est au cycliste, c'est-à-dire quelque chose de très très difficile. Et c'est à tous les concours internationaux, bien sûr. Alors je vous propose la très belle interprétation d'un de nos meilleur flûtiste actuel, c'est Emmanuel Pahut, c'est le flûte solo, c'est un Français, mais il est flûte solo à l'Orchestre Philharmonique de Berlin, tenez-vous bien, un type extraordinaire, aussi bien par le son que la virtuosité. Alors je vous propose donc d'écouter le dernier mouvement de ce concerto pour flûte de Jacques Ibert, Emmanuel Pahut et l'orchestre Tonhalle de Zurich, dirigé par David Zinman.
Thank you.
Voilà, eh bien, vous avez entendu le dernier mouvement de ce terrible, redoutable concerto pour flûte de Jacques Ibert, interprété par Emmanuel Pahut. Emmanuel Pahut, son extraordinaire. Et je dois dire que la flûtiste de l'Opéra de Limoges, qui s'appelle Eva Nina Kosmus, et qui, je crois, est d'origine slovène, a un son qui est aussi beau, aussi pur et aussi magnifique que celui d'Emmanuel Pahut. Comme elle est toute jeune, elle a tout le temps de faire une carrière. Alors, on va aller un peu dans le passé. Un musicien très connu, mais dont l'œuvre n'est pas si souvent jouée. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a écrit beaucoup, beaucoup de musique de chambre ou de ce qu'on appelait des sonatas da chiesa, des sonates d'église. Alors, je vous propose d'écouter un extrait de ces sonates d'église de donc Arcangelo Corelli. Il est fin 17e, début 18e, interprété par Elisabeth Schneider au violon, Viggo Mangor à l'archilute et au théorbe. Alors vous savez, c'est le théorbe et l'archilute, je crois que c'est un peu la même chose à vrai dire. C'est un luth mais qui a un manche énorme qui fait genre 1m50 de long. Et sur ce manche, il y a bien sûr les cordes comme sur le luth. Et puis il y a aussi quatre cordes sympathiques, c'est-à-dire auxquelles on ne touche pas, mais qui amplifient le son des autres cordes. Voilà, et puis il y a un continuo, c'est-à-dire, si c'est fait à l'orgue, un petit orgue positif, et il est joué par Ulrich Spang Hansen. Voilà, Arcangelo Corelli.
Thank you.
Voilà quelques extraits de ces sonates d'église de Arcangelo Corelli. On jouait ça dans les églises, bien sûr, mais pas seulement. Vous savez, c'était une époque, on est au XVIIe, XVIIIe siècle, et si on voulait entendre de la musique, il fallait la faire soi-même. Et c'est pour ça qu'il y avait... Alors, suivant la classe sociale à laquelle on appartenait, on jouait plus ou moins d'un instrument raffiné ou pas. Les classes populaires jouaient beaucoup de la cornemuse, parfois de la vielle à roue, et puis alors un petit p- et aussi du violon, bizarrement, du violon de violoneux. Et puis alors les classes bourgeoises et aristocratiques, ils aimaient beaucoup la viole de gambe et ils faisaient ce qu'on appelait des consortes de viol, avec des viols ténors, alto, basse, etc., etc. Voilà, alors c'était la belle musique qu'on faisait pour soi, et tous les musiciens, je pense, seront d'accord avec moi, on apprécie mieux la musique qu'on joue soi-même, même si on la joue mal, et souvent c'est le cas, que très bien interprétée par un très bel interprète. Mais bon, c'est au goût de chacun. Alors, un excellent livre, Olivier Rollin, Sept villes. Le chiffre 7. Alors, Olivier Rollin, j'en ai souvent parlé à cette antenne. C'est, au départ, c'était un gauchiste. Vous savez, il faisait partie de ces intellectuels d'extrême gauche. Alors, Olivier Rollin a intégré Normale Sup la rue d'Ulm. Avant de s'en faire virer pour action révolutionnaire et quelque chose qui n'était pas loin d'un terrorisme gentil et inoffensif, mais enfin quand même qui foutait bien la pagaille. Et son frère Jean Rollin, très bon écrivain aussi et que j'ai chroniqué également sur cette antenne, son frère était un ingénieur de Centrale Paris. C'est un mystère pour moi de voir à quel point ces gens qui étaient tellement intelligents, tellement brillants, ont pu adopter des idées maoïstes, communistes extrêmes, et ont gobé les pires horreurs sans sourciller. Comme quoi, on peut être très intelligent et aussi très con en même temps. Bon, alors là, Olivier Rollin a écrit beaucoup de livres. Là, c'est un petit livre. Alors, c'est un petit livre qui fait une centaine de pages, 120 pages, qui est publié aux éditions Verdier Poche. Vous savez, les éditions Verdier, c'est un éditeur provincial qui, je ne sais plus où il est, dans le sud-ouest, et qui publie beaucoup d'excellente littérature, souvent à une jolie couverture jaune. Voilà. Alors, ces villes, eh bien, il nous explique en préface, Olivier Rollin, que il a retrouvé des textes de villes dans lesquelles il avait séjourné et qu'il avait aimé, villes qu'il avait charmées pour une raison ou pour une autre. Alors ces villes, c'est Alexandrie, Leningrad, Buenos Aires, Trieste, Lisbonne, Prague, je l'ai peut-être dit, non, Prague, voilà. Et donc ce sont des espèces de récits impressionnistes extrêmement bien écrit, très, très charmant, tout à fait magnifique, et qui vous donne envie d'y aller. Alors, évidemment, je ne connais pas toutes les villes dont il parle, mais quelques-unes. Alors, il parle de Trieste, de triste Trieste. Et alors, à Trieste, Joyce, l'auteur de Ulysse, donc l'écrivain irlandais, a séjourné assez longtemps, et il était genre professeur d'anglais à l'antenne locale de l'école Berlitz, je crois. Et donc, il donnait des cours d'anglais, et puis il fumait extrêmement, et il buvait extrêmement aussi. Et donc, c'est l'occasion pour Olivier Rollin de faire une espèce de promenade dans Trieste. Trieste, qui est une ville qui est un peu slovène, un peu italienne, très peu italienne en fait, et qui a un peu de tout ça, avec des bâtiments, par exemple une place centrale invraisemblable, énorme, gigantesque, disproportionnée par rapport à la ville, et aussi des quartiers sur le port. Alors voilà, c'est une ville littéraire, et bien sûr Joyce, même actuellement, est très présent à Trieste, et il y a un parcours pour les touristes qui vous mène de tel endroit à tel café où il allait boire son café le soir, etc., etc. Donc très très bien. Il parle de Lisbonne aussi, très bien. Il a écrit d'ailleurs d'autres textes. Et puis alors, le plus remarquable, c'est Alexandrie, paysage littéraire avec ruines. Alors, il s'appuie, il fait beaucoup allusion, évidemment, au Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Si vous n'avez pas lu le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel, ben vous avez de la chance, parce que comme ça, vous pourrez découvrir un chef-d'œuvre. Il y a quatre romans qui racontent, les trois premiers racontent la même histoire, mais vue par un narrateur différent. Et puis le dernier, c'est la suite des premiers. Quatre volumes, Justine, Balthazar, Mount Olive et Cléa. Il y a une édition en quarto, je crois, où il y a les quatre qui sont dans le même volume. Voilà, très très bien, c'est un livre qu'on relit avec plaisir. Si vous lisez bien l'anglais, vous pouvez le lire en anglais. C'est pas facile. Mais enfin, le charme est grand. Alors, Olivier Rollin donc se promène dans Alexandrie avec les rues, les places, les personnages qui sont évoqués par Laurence Durel, y compris les écrivains d'Alexandrie, en particulier Constantin Cavafy, le poète d'Alexandrie. Et puis il retrouve vaguement les lieux, un endroit, il tombe presque par hasard rue Nebi Daniel, il passe devant la grande synagogue, et puis il voit une maison extraordinaire, énorme, et il dit c'est sans doute c'était la maison du baron Alfred de Ménassé, le modèle paraît-il du Nissim de Durel, qui ne portait jamais d'argent sur lui ni ne daignait y toucher. Il laissait ce soin à son secrétaire qui le suivait comme son ombre. Voilà, ça c'est magnifique. Vous retrouvez le charme du livre de Laurence Durel. Vous aurez presque envie d'aller à Alexandrie, et vous aurez tort, parce que Alexandrie littéraire est bien plus intéressante que la véritable Alexandrie, qui paraît-il est une ville poussiéreuse, sale, absolument sans intérêt, et épouvantable, bruyante comme on ne l'est pas, enfin voilà. Il y a aussi Leningrad. Olivier Rollin a écrit un texte sur Leningrad. J'ai bien dit Leningrad et pas Saint-Pétersbourg, car à l'époque, c'était encore Leningrad. Et ça commence comme ça, la Volga noire, chaote au long des avenues noires, le chauffeur ne desserre pas les dents, il y a de temps en temps la vitrine pâle, embuée d'un magasin d'alimentation. L'obscurité frappe d'abord en dépit des slogans de néons rouges, rayonnant dans la brume. Peuple et parti unis, vivent et travaillent de façon léniniste. Voilà. Et rien que ça, ça donne l'atmosphère qu'on pouvait éprouver quand on se baladait à Leningrad, qui n'était pas encore Saint-Pétersbourg, et à une époque bien lointaine où on pouvait aller faire un peu de promenade à l'époque, c'était encore l'URSS. Voilà, alors je ne saurais trop vous recommander ce petit livre d'Olivier Rollin, « Cette ville », et vous pouvez l'acheter et le lire, puis vous pouvez aussi l'acheter et le donner en cadeau quand vous allez dîner chez des amis. Ça sera toujours apprécié. Thank you. Voilà, eh bien, c'était l'allegretto de cette sonate de Schubert, sonate pour piano, bien sûr, en sol majeur, Deutsch 894. Alors, le Deutsch, c'est celui qui a fait le catalogue des œuvres de Schubert. Vous savez, pour Mozart, on voit K, etc. Pour Köchel, qui était Monsieur Köchel, qui a fait le catalogue des œuvres de Mozart, plus de 600, et beaucoup pour Schubert aussi. Ce qui est extraordinaire, c'est que Schubert est mort à 31 ans. Il est mort de la syphilis, mais c'est prodigieux de voir tout ce qu'il a écrit, le peu de temps qu'il a passé sur Terre. Ces gens-là, il y a des gens qui ne sont pas câblés comme les autres, il n'y a pas de doute. Bon, alors, on change complètement d'atmosphère, d'ambiance et d'époque, puisqu'on revient au XVIIe siècle, et on écoute donc Orlando Gibbons, musique pour viol. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on aimait bien, et surtout en Angleterre, et encore aujourd'hui, on aimait bien ce qu'on appelait des consortes de viol, c'est-à-dire il y avait des viols aigus, ténors et basses, comme ce qui reste les viols de gambe, et la contrebasse actuelle fait partie de la famille des viols, mais c'est le seul qui reste dans les orchestres classiques. Alors, on me faisait remarquer tout à l'heure que Gibbons, c'est le nom d'un musicien pop célèbre, et que l'un d'eux porte aussi le nom d'un guitariste non moins célèbre. Voilà, comme quoi, ben, y a peut-être des noms qui conditionne la vocation des gens. Bien, alors, je vous propose donc d'écouter c'est des mélodies, c'est de la musique pour consorte de viol, et donc c'est un poème alors, dont on a enfin, il y a un petit morceau utilisé par Gibbons, mais apparemment ce poème était plus long, voilà, qui s'appelle « Go from my window », voilà, « Pars de ma fenêtre, mais le vent et la pluie vont te ramener à ma fenêtre, mon amour ». Voilà, nous écoutons cet extrait de consorte de viol par un ensemble avec Marc Lévy, donc, qui est juste Marc Lévy, un autre Marc Lévy, Raiko Ishise, Johanna Levin, viol ténor, Emilia Benjamin, viol ténor, Daniel Yedon, basse de viol, ainsi que Alison McGillivray, et même Gary Cooper à l'orgue. Je vous jure que c'est vrai. On n'a pas encore John Wayne, mais on pourrait à la limite. Voilà, et Rachel Elliott, soprano. Thank you. Voilà, vous avez entendu de Orlando Gibbons, bon, ce très joli morceau pour consorte de viol. Ils sont très bons, ce sont des Anglais, et parce que des fois la viol de gambe, des fois c'est un peu criard, c'est pas très joli. Mais là, ils s'en sortent extrêmement bien. Voilà, deuxième livre de notre émission, donc de Karine Thuil, La guerre par d'autres moyens. Alors, je crois que la citation exacte, c'est une citation de Clausewitz. Vous savez, Clausewitz, c'est ce théoricien allemand du 19e siècle qui avait écrit un livre sur la guerre, sur la théorie de la guerre. Et alors, il disait que la diplomatie, c'est la guerre par d'autres moyens. Voilà, alors c'est un livre qui est dédié à Robert Badinter et qui a, pour commencer, des épigraphes assez sympathiques que je ne résiste pas au plaisir de vous lire. Vous avez l'air d'un gars plutôt gentil. Pourquoi voulez-vous vous embarquer dans un truc sale et méchant comme la politique ? Et c'est de Barack Obama dans son livre « L'audace espérée ». Et puis une autre, « Je sais une chose que personne ne sait, vous avez besoin d'alcool pour vivre, c'est Marguerite Duras dans « L'amant ». Et c'est évidemment en relation avec l'intrigue de cet assez gros roman. Alors, c'est un président de la République qui s'appelle Dan Lehman. Il est juif, il est alcoolique à un point épouvantable. Il est vraiment esclave de l'alcool. Il a été président de la République. Il n'a pas pu se représenter. Il a quitté sa femme pour une actrice, et c'est vrai que ça évoque quand même un peu l'histoire de François Hollande. C'est quand même pas du tout l'histoire de François Hollande qui est romancée par Karine Thuil. Hein. C'est uniquement un certain nombre de rapprochements qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Donc, il a quitté sa femme pour une actrice, il a eu un autre enfant, une petite fille qui est sourde profonde, mais qu'il aime beaucoup, avec qui il est très attaché, et il boit. Il est horriblement alcoolique, il passe son temps à boire, et comme tous les alcooliques, il n'est pratiquement jamais ivre, il maintient un degré d'alcool élevé dans son organisme, et donc toutes les histoires qui lui arrivent, sa nouvelle épouse est une actrice qui tourne dans un film avec un film dont le scénario a été écrit par sa première épouse. Vous voyez, ça devient assez compliqué. Et le réalisateur de ce film n'est autre qu'un personnage un peu suspect qui drague la fille du premier mariage du président, qui drague en vain, mais enfin, qui le fait. Voilà, ceux qui ont compris, si vous suivez toujours, tant mieux. Voilà, alors l'histoire est assez intéressante finalement, et tout ça va vers culmine au Festival de Cannes où le film en question va avoir le prix, la Palme d'Or ou je ne sais pas quoi, les récompenses qu'on donne à Cannes. Voilà, alors c'est un assez bon livre qu'on lit avec assez de plaisir, il faut bien le dire. Il ne faut pas chercher les ressemblances avec François Hollande, même s'il y en a, mais ce sont, je crois, enfin, non pas des coïncidences, car il est bien évident que Karine Thuil l'a fait exprès, mais enfin, on s'éloigne très vite de la vie réelle de François Hollande, en particulier le fait que ce Dan Lehman, le héros du livre, donc ancien président de la République, est juif et qu'il fait face à des insultes antisémites, à même des manifestations d'antisémitisme. Voilà, donc c'est le dernier, le plus récent, je veux dire, livre de Karine Thuil, La guerre par d'autres moyens. Vous pouvez lire aussi Les choses humaines, qui a eu le prix Interallié et qui a eu le concours des lycéens, je crois. Ce livre se lit agréablement, même si ce n'est sans doute pas ce qu'elle a écrit de meilleur. Alors, nous allons écouter maintenant un extrait de l'art de la fugue de Bach. Alors, quelques mots quand même sur ce monument. Alors d'abord, vous savez, Bach meurt en 1750, et à l'époque où il a écrit l'art de la fugue, l'art de la fugue qui est une espèce d'ouvrage théorique, c'est-à-dire on le joue, là nous allons l'entendre au piano, mais ça a été enregistré, tenez-vous bien, pour quatuor de saxophone. Ça a été enregistré pour quatuor à cordes, enfin, des quantités de façons. Alors, c'est des choses théoriques avec la fugue, et on en écrivait déjà pratiquement plus à l'époque de Jean-Sébastien Bach. Et alors, la fugue est un exercice extrêmement contraignant avec un sujet, puis une réponse qui doit être à la quinte, puis un contre-sujet, et puis etc., avec des modulations obligatoires. Tout ça, c'est un exercice extrêmement rigide, très contraint, et qui est traité de façon absolument géniale par Bach. Je veux dire, quand on s'y connaît un petit peu, et qu'on regarde comment c'est écrit, et la maîtrise qu'il a de cet exercice très mathématique finalement, eh bien, on est quand même stupéfait, parce qu'au bout de tout ça, il y a quand même de la très belle musique. Et je vous propose donc d'écouter un extrait de l'art de la fugue. Alors c'est au piano et c'est joué par Laurent Aymard. Voilà, nous écoutons cet extrait de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Thank you. Voilà, bien, c'était un extrait de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, avec ses constructions invraisemblablement complexes, mais ça ne se voit pas, et heureusement interprété par Pierre-Laurent Aymar. Et bien, c'est le moment de se dire au revoir et de se dire à la semaine prochaine sur RTF pour de nouvelles barricades mystérieuses. Salut à toutes et salut à tous.